Chapitre 45. On croit que la mort est une absente quand elle est une présence secrète. Léonine a continué à faire disparaître ses affaires. Sa chambre s'est vidée peu à peu. Ses vêtements et ses jouets sont partis chez Emmaüs. À chaque fois que Polo, c'est ainsi qu'il s'appelait, garait son camion à l'effigie de l'abbé Pierre devant chez moi, que je lui tendais des sacs remplis de roses, j'avais le sentiment de donner un des organes de Léo pour qu'une autre enfant en profite, pour que la vie continue à travers ses poupées, ses jupes, ses chaussures, ses châteaux, ses perles, ses peluches, ses crayons de couleur. Elle a fait disparaître Noël. Il n'y a plus jamais eu de sapin. Le fameux sapin synthétique, pour ne pas dézinguer les vivants, restera sans doute le plus mauvais investissement de mon existence. Pâques, le nouvel an, la fête des mères, la fête des pères, les dates d'anniversaire. Je n'ai plus jamais soufflé une bougie sur un gâteau après sa mort. Je vivais dans une sorte de coma éthylique permanent, comme si mon corps, pour se protéger de la douleur, s'était mis en état d'ivresse sans que j'aie ingurgité la moindre goutte d'alcool. Enfin, pas toujours. Parfois, je buvais comme un trou sans fond. C'est ce que j'étais, un trou sans fond. Je vivais dans du coton. Mes gestes étaient gercés, au ralenti. Comme Tintin quand il était encore accroché au mur de la chambre de Léonine. J'ai marché sur la lune. J'ai fini la grenadine. J'ai fini les princes, les savanes, les coquillettes, l'Advil en pipette. Entre-temps, je me suis levée, j'ai baissé la barrière, je me suis recouchée, je me suis relevée, j'ai fait à manger à Philippe Toussaint, j'ai monté la barrière, je me suis recouchée. J'ai dit merci aux sincères condoléances dans la grande rue. J'ai répondu merci aux nombreux courriers. J'ai classé les innombrables dessins des camarades de classe dans une pochette que j'ai choisie bleue, comme si Léo avait été un garçon. Comme si elle n'avait pas vraiment existé. Le pire dans le pire, c'était de croiser le regard effaré de Stéphanie derrière sa caisse à chaque fois que je poussais la porte du casino. Ça, et les nuits, c'était ce que je redoutais le plus. Je me conditionnais pendant des heures pour réussir à sortir de chez moi, traverser la route et ouvrir la porte de la supérette. Je baissais les yeux en poussant mon petit caddie dans les allées étroites jusqu'à ce que le regard de Stéphanie croise le mien. Le chagrin, le désespoir qui se déposait à la surface de ses yeux comme du brouillard dès qu'elle m'apercevait. C'était plus qu'un miroir. C'était la désolation. Elle ne mouffetait pas quand elle voyait ce que je déposais sur le tapis de caisse, les bouteilles d'alcool. Elle annonçait le total suivi d'un « s'il te plaît ». Je tendais ma carte bleue, faisais mon code. Au revoir. À demain. Elle ne me proposait plus les nouveautés, les produits top, comme elle disait. Tous ces trucs qu'elle avait essayés. Le produit vaisselle qui fait les mains douces, la lessive qui sent bon et qui lave bien même à 30 degrés, même à froid, le délicieux couscous légumes au rayon surgelé, le balai poussière magique, l'huile aux oméga 3. On ne propose plus rien à une mère qui a perdu son enfant. Ni les promotions, ni les coupons de réduction. On la laisse acheter du whisky en baissant les yeux. Je sentais encore le regard de Stéphanie dans mon dos quand je poussais la porte de chez moi. On a eu affaire à des assureurs, des avocats. Il y aurait un procès. La direction de Notre-Dame-des-Prés serait poursuivie. On ferait fermer l'établissement pour toujours. Bien sûr, nous allions être indemnisés. Combien coûte une vie qui pèse 7 ans et demi? Toutes les nuits, je réentendais la voix de Léo, sa voix de femme, me dire « Maman, il faut que tu saches ce qui s'est passé cette nuit-là. Il faut que tu saches pourquoi ma chambre a brûlé. » Ce sont ces mots qui m'ont fait tenir. Mais il m'a fallu des années pour les mettre à exécution. Je n'en étais pas capable physiquement. Et la douleur était beaucoup trop forte pour que je parvienne à me réanimer. Il me fallait du temps. Pas du temps pour aller mieux, je n'irai jamais mieux. Du temps pour pouvoir à nouveau bouger, être en mouvement. Chaque année, du 3 au 16 août, la SNCF nous envoyait des remplaçants. Philippe Toussaint, qui refusait de me suivre dans mon délire morbide, partait à moto retrouver des copains de Charleville et moi à Sormiou. Célia venait me chercher gare Saint-Charles, me descendait jusqu'au cabanon, puis me laissait seule avec mes souvenirs. De temps en temps, elle venait me rendre visite et nous buvions du vin de cassis en regardant la mer. Pour moi, la fête des morts, c'était en août. Je m'immergeais et je ressentais ma fille qui n'était plus là. Je n'ai jamais rien reçu de la part d'Armel et Jean-Louis Cossin, les parents d'Anaïs. Pas un appel, pas une lettre, pas un signe. Ils ont dû m'en vouloir de ne pas être allés à l'enterrement des cendres de nos enfants. Les vieux Toussaint sont retournés plusieurs fois au cimetière. À chaque fois, ils emmenaient leur fils avec eux. Eux non plus, je ne les ai jamais revus après la mort de Léonine. Ils ne rentraient plus chez moi. C'était comme un accord tacite entre nous. La rage et la promesse de grosses indemnités ont fait tenir Philippe Toussaint. Son obsession, c'était que les auteurs de l'incendie payent. Mais on lui répétait qu'il n'y avait pas d'auteur, que c'était un accident. Ce qui le mettait encore plus en rage. Une rage silencieuse. Il voulait être dédommagé. Il pensait que les cendres de notre fille valaient leur pesant d'or. Il a commencé à changer physiquement. Ses traits se sont durcis et ses cheveux ont blanchi. Quand deux fois par an il revenait du cimetière de Brancion-en-Chalon, que ses parents le déposaient devant la maison sans jamais entrer, il ne me disait rien. Quand il se levait le matin, il ne me disait rien. Quand il partait faire un tour, il ne me disait rien. Quand il revenait des heures après, il ne me disait rien. À table, il ne me disait rien. Seuls les jeux vidéo qu'il activait avec ses manettes, assis devant la télévision, faisaient du boucan. Et de temps en temps, quand les gendarmes, les avocats ou les assurances téléphonaient, il hurlait et demandait des comptes. Nous dormions toujours ensemble, mais je ne dormais plus. J'étais terrorisée par mes cauchemars. La nuit, il se collait contre moi, et j'imaginais que c'était ma fille, là, derrière moi. Une ou deux fois, il m'a dit « On va refaire un gosse !» Et j'ai répondu oui, mais je prenais un contraceptif en plus des antidépresseurs et des anxiolytiques. Mon ventre était cassé. Porter la vie dans la mort de mon corps, jamais. Léo a fait disparaître ça aussi. La possibilité d'un autre enfant. J'aurais pu partir, quitter Philippe Toussaint après la mort de notre enfant, mais je n'en ai eu ni la force, ni le courage. Philippe Toussaint était la seule famille qu'il me restait. Demeurer près de cet homme, c'était aussi rester près de Léonine. Voir les traits de son père chaque jour, c'était voir ses traits à elle. Passer devant la porte de sa chambre, c'était frôler son univers, ses empreintes. Son passage sur terre. Je serais définitivement une femme qui ne quitterait jamais, mais qui serait quittée. En septembre 1995, j'ai reçu un colis sans nom d'expéditeur. Il avait été posté de Brancion-en-Chalon. Au début, j'ai pensé qu'il ne pouvait venir que de ma chère Célia, qu'elle était allée là-bas, au cimetière. Mais je n'ai pas reconnu son écriture. Quand j'ai ouvert le colis, j'ai dû m'asseoir. J'avais dans les mains une plaque funéraire blanche. Un très beau dauphin était gravé sur le côté, avec ces mots. « Ma chérie, tu es née le 3 septembre, décédée le 13 juillet, mais pour moi, tu seras toujours mon 15 août. » J'aurais pu écrire ces quelques mots. Qui m'avait envoyé cette plaque? Quelqu'un voulait que j'aille la déposer sur la tombe de Léonine. Mais qui? Je l'ai remise dans le colis et je l'ai rangée dans l'armoire de ma chambre, sous une pile de serviettes que nous n'utilisions jamais. En repliant le linge, j'ai découvert une liste de noms et de fonctions glissées entre deux draps. Edith Croquevieille, directrice. Swann Letellier, cuisinier. Geneviève Magnan, dame de service. Héloïse Petit et Lucie Lindon, monitrice. Alain Fontanelle, agent d'entretien. La liste du personnel de Notre-Dame-des-Prés, griffonnée par Philippe Toussaint. Il avait dû noter leur nom la semaine du procès. La liste avait été faite au dos d'une addition, un repas pour trois personnes au Café du Palais, l'année du procès, à Mâcon. Trois personnes, Philippe Toussaint et sans doute ses parents. J'ai pris cela pour un signe venant de Léonine. Le même jour, je recevais cette plaque, et j'avais sous les yeux la liste des personnes qu'il avait vues pour la dernière fois. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à sortir de chez moi, à faire des signes aux passagers dans les trains depuis ma barrière. Et c'est à partir de ce jour-là que Philippe Toussaint a commencé à me regarder comme si j'avais perdu la raison. Mais il ne m'a pas comprise. Je la retrouvais. J'ai commencé par déchirer ma camisole chimique. J'ai arrêté les médicaments peu à peu. L'alcool complètement. Toutes les douleurs allaient s'en prendre à moi, s'acharner sans doute, mais je n'en mourrai plus. Je suis sortie de chez moi. À travers la vitre, j'ai croisé le regard de Stéphanie derrière sa caisse, qui m'a souri tristement. J'ai marché 10 bonnes minutes en pensant qu'avant, quand je faisais ce chemin, que je longeais les maisons, j'avais la main de ma fille dans ma poche. Mes poches seraient toujours vides désormais, mais les mains de Léonine continueraient à me guider. J'ai poussé la porte de l'auto-école Bernard pour m'inscrire au code et au permis de conduire.